PMU.fr est fier de soutenir Vue du Banc. Parce que pour bien parier, il faut bien comprendre le jeu.
Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 10 de la saison 4 de Vue du Banc. On continue à dérouler le fil de la Coupe du Monde avec 3 rencontres aujourd'hui. Brésil, Costa Rica, Serbie, Suisse et Nigeria-Islande. Les 3 n'ont pas été aussi passionnants les uns que les autres. Et on va débuter comme d'habitude par présenter mes acolytes. Salut Christophe, Christophe Kuchlid, la voix du Nord, de l'AFP, enfin un peu la Terre entière. Comment vas-tu?
Salut Raphaël.
Voilà, ça va. Quelle énergie dans la voix. Et Florent Tonetti, l'imperturbable de Chronique Tactique, ça va Florent?
Ça va, on fait aller.
On fait aller avec ce match entre le Brésil et le Costa Rica, notre première rencontre du débrief et de la journée. Victoire à l'arrache du Brésil 2-0, alors le score ne le dit peut-être pas, mais ça a été très compliqué pour les Brésiliens, Florent, notamment avec une première période où tu aurais peut-être préféré continuer ta longue nuit.
Oui, parce que j'ai raté, on va dire, les 20 premières minutes à peu près, mais j'ai pu comprendre ensuite en voyant d'abord les stats à la mi-temps, puis, déjà les 20 minutes qui ont suivi, et surtout les expected goals de la première période sur le compte de Vertonghen, où j'ai pu comprendre qu'il ne s'était pas passé grand-chose dans cette première mi-temps, à part peut-être une occasion costaricienne, la seule du match. Donc c'est vrai que, moi en fait, sur la première mi-temps, ce que je retiens, c'est un Brésil qui a peut-être un peu plus varié. On avait beaucoup parlé du côté gauche, qui est évidemment le côté fort de cette équipe, mais de ballons qui ressortaient très peu de ce côté gauche lors du premier match, et d'un Willian qui avait été assez peu utilisé. Là, il y a eu beaucoup plus de ballons quand même qui lui sont arrivés. Un exemple assez simple, c'est que je pense que... J'essaie de me remettre les stats sous les yeux, j'arrive. C'est qu'à la mi-temps, quand on compare les ballons touchés par Neymar et par Willian, il y en a 45 pour Neymar, 35 pour Willian. Donc certes ça penche à gauche, mais Willian a quand même eu un certain nombre de ballons à jouer, et surtout de situations où il avait pas mal d'espace côté droit. Alors, et le truc c'est qu'il a réussi ses dribbles, il termine à son match, c'est-à-dire à la mi-temps, avec un 2 sur 2 au niveau des dribbles réussis, mais en fait c'était ce qui se passait après le dribble, la dernière passe ou le choix, où à chaque fois c'était assez désastreux vu ses qualités habituelles. Et du coup le fait qu'il sorte à la mi-temps, c'était pas une surprise, c'était même attendu de ma part. Et après en deuxième mi-temps avec Douglas Costa, il y a eu quand même pas mal de progrès, je pense.
Ouais, pour reprendre un peu ce que tu disais sur la première période, les deux équipes étaient à la pause à moins de 0,20 d'explicit goals chacune. Le Costa Rica d'ailleurs, la dernière occasion du Costa Rica en fait, c'est à la 15e minute, pour te dire à peu près le côté offensif de cette équipe, enfin, de manière ironique. Mais c'est vrai que le Brésil a eu de la peine à créer en première, et après en deuxième, Christophe avec Douglas Costa, avec Neymar qui n'a pas fait d'énormes progrès mais qui n'ont, disons, à corriger certaines choses, il y a eu un peu de mieux. C'est pas non plus fantastique, mais on a retrouvé quand même le Brésil équilibré, où c'est notamment un Brésil qui concède très peu d'occasions.
Ouais, alors c'est vrai que c'est toujours plus facile de ne concéder pas beaucoup d'occasions contre une équipe qui attaque pas, ou quasiment pas. Alors il y a deux problèmes du côté du Costa Rica. Le premier, c'est que le plan de jeu était quand même relativement défensif, et le sélectionneur l'a dit après le match, sous-entendu, c'est pas ma faute, j'aimerais bien attaquer, mais au bout d'un moment, faut être réaliste. Moi, je peux pas attaquer contre le Brésil avec ces joueurs-là, quoi, en gros. Donc, j'étais bien obligé de défendre, sinon j'avais plus à perdre qu'à gagner. Puis, la deuxième chose, c'est que même en essayant d'exploiter les rares situations de transition, notamment que t'avais. Alors, il y en a une où c'est Marcelo qui perd un duel, et ensuite, Casemiro se fait battre un peu en vitesse à l'épaule. T'as un centre en retrait, et ensuite, la frappe après le centre en retrait n'est pas cadrée. Alors que pour le coup, c'est le genre d'occasion que les expected goals sous-estiment un peu en valeur, parce que le but est à moitié ouvert, t'arrives lancé à 15 mètres, donc c'est quand même une grosse occasion. Mais je veux dire, à part ça, il y a quasiment rien, et c'est parce que tu manquais vraiment de qualité, à part Brian Ruiz, qui techniquement était quand même largement au-dessus, qui lui était l'un des rares à pouvoir faire un contrôle, je me donne du temps pour faire un choix et je réussis à faire une bonne passe vers l'avant. Le reste, c'était pas capable de faire grand-chose. Donc c'est vrai que le Costa Rica ne te met pas en danger, ne teste pas ta défense. N'empêche que bon, pour l'instant, le Brésil confirme que sa défense est solide. Donc avoir face à des adversaires un peu plus menaçants. Et pour la partie offensive, et là ça rejoint à moitié ce que je disais. Enfin, disons que Willian reste un choix un peu conservateur finalement, parce que de tous les ailiers, mais même pas forcément brésiliens, du foot actuel, les top ailiers, c'est peut-être celui qui travaille le plus ou pas loin. Donc ça reste un choix, alors peut-être pas défensif, hein, mais qui t'offre une certaine sécurité que tu peux estimer avoir besoin à partir du moment où tu titularises, Coutinho à la place de Fernandinho dans le milieu à 3, c'est-à-dire limite un meneur qui peut jouer ailier, etc., que tu mets un cran plus bas. Donc avoir Willian, ça peut donner une sécurité, mais là, tu n'avais pas besoin de cette sécurité dans ce contexte-là, tu avais surtout besoin de créer. Et pour ça, les courses, la vitesse et la capacité à faire la différence individuellement de Douglas Costa était vraiment nécessaire.
Si on fait un point sur la performance de Neymar, alors on avait beaucoup parlé de sa performance, de sa manière de jouer, surtout sur le premier match contre la Suisse, où il nous avait frustrés, même si en effet il était visé par les contacts rugueux suisses. On a revu un peu ses séquences, parfois, et notamment en première période, où dans des 1 contre 2, parfois des 1 contre 3, ou de haut jeu, il a un peu attendu la faute, et après il se plaint que le mec fasse faute. Oui, mais enfin, quand tu attends 10 secondes de haut jeu, à un moment, le risque, c'est que voilà, il y a des contrats sur toi, et tu les encourages en ne profitant pas de ce que ça engendre pour toi. Alors, il y a eu quand même des bonnes choses de sa part. Moi, je trouvais qu'il avait été très intelligent sur certaines séquences où, quand il sait que le latéral adverse le colle parce qu'il veut pas qu'il reçoive le ballon avec du temps, il a fait l'appel dans le dos et c'est quelque chose qui est dans son jeu et qu'il utilise parfois pas assez. Mais toi, ça te tenait à cœur de parler de ça lors du premier match. Est-ce que tu as trouvé du mieux dans sa performance face au Costa Rica?
Alors, oui et non. Oui, dans l'intelligence des choix, même si certains sont parfois un peu incompréhensibles, enfin, où tu sens que tu as l'impression du mec qui joue avec des nuls et qui veut faire la différence un peu tout seul, et notamment à 1 contre 2, à un moment où vraiment les deux adversaires sont l'un derrière l'autre, et même si tu passes le premier avec la manière dont tu vas pousser la balle, forcément ça va atterrir dans les pieds du deuxième, donc c'était en plus collé à la ligne de touche, donc là c'était matériellement pas possible de passer. Donc tu as des fois des choses comme ça qui restent malgré tout un peu le fait de surjouer, qui a toujours été un peu la tendance qu'il a eue, et que tu t'oublies un petit peu quand il réussit 15 dribbles, tu oublies que le 16e était un peu surjoué, sachant que dans les 15, t'en as des fois 2-3 qu'il n'est censé ne pas réussir et qui sont un peu bêtes, et que finalement, grâce à sa qualité technique supérieure, il réussit. T'as aussi, de temps en temps, quand même, des moments où il traverse le terrain de manière horizontale au lieu d'aller dans la verticalité, et où là, pour le coup, c'est vraiment incité à se faire faucher, parce que, à part espérer qu'il y a un angle de tir qui s'ouvre pour au moment où tu repiques dans l'axe pour frapper sur ton bon pied, sinon tu peux pas espérer grand chose, que tu ne te rapproches pas du but. Mais sinon, il y a du mieux quand même dans les choix. C'est un peu moins le coffre à ballon, quoi. Il rend un peu plus la balle, il participe un peu plus, donc du coup, ça fait forcément un peu plus de mouvement. Là où moi j'ai été déçu, c'est sur des erreurs techniques finalement assez simples, que ça soit sur la dernière passe, un moment où il peut lancer Douglas Costa sur une transition, Douglas Costa qui avait pris tout le monde de vitesse, mais vraiment bien bien de vitesse, quoi. Il avait mis 20 mètres à tout le monde, il a juste à lui faire une passe en profondeur finalement assez simple. Douglas Costa ensuite aurait eu un face-à-face, il la donne mal. Ça, c'est un peu embêtant parce que c'est un geste assez facile pour que tu dois réussir à ce niveau-là de la compétition. Il y a un face-à-face qui rate où là, pareil, c'est juste une technique de frappe. Et il positionne pas bien son pied, il se précipite un petit peu. Et puis, tu as le troisième truc, c'est quand il se laisse tomber après un caviar de Gabriel Jesus, où là, tu te dis... tu sens un peu le mauvais réflexe, en plus du mec qui a pas forcément intégré qu'il y a la vidéo et que du coup ça puisse se retourner contre lui, alors que s'il a le réflexe de jouer l'action, il est, je vais pas dire qu'il est sûr de marquer, mais pas loin. Donc il y a du mieux sur le plan des intentions. Après, sur le plan de l'exécution, il faut encore peaufiner, mais vu l'historique du joueur, je pense que c'est ça peut se régler sur la compétition. Je pense que son manque de rythme peut aussi expliquer le fait que de temps en temps il dose mal certaines passes, certains tirs, etc. Déjà qu'il puisse avoir l'intention de jouer collectif, c'est un premier pas. Il y a pas de, j'ai moins d'inquiétude sur le fait que Neymar soit capable de faire une passe en profondeur dans les semaines à venir plutôt que Matuidi au même poste, par exemple.
Donc on continue quand même de remarquer le contraste avec ses partenaires, Florent, notamment avec Jesus en pointe, avec Coutinho qui lui aussi avait ce côté parfois à Liverpool de porter trop le ballon, mais qui là en équipe du Brésil se modère et arrive à faire les bons choix. Et puis l'entrée de Firmino dans ce domaine-là a aussi aidé. Et ce trio Jesus, Firmino, Coutinho qui a régalé après le premier but. D'ailleurs, le Brésil a continué à se créer des occasions. Et finalement, ils font une performance offensive en termes de stats bruts, une des meilleures de la compétition, parce qu'ils finissent à 2,5 expected goals. Mais cette complicité entre les joueurs offensifs, à l'exception de Neymar, qui est un peu dans son monde parfois, elle est prometteuse, parce qu'on voit le Brésil qu'on espérait voir et en tout cas qu'on craignait quand on était supporter français avant le début de la compétition.
Ouais, bah c'est en fait quand tu vois Coutinho, alors certes comme tu le disais, il avait ses mauvais réflexes de trop porter la balle au début à Liverpool, mais c'est quelque chose qu'il a corrigé d'abord avec Klopp et puis aussi en arrivant au Barça. Et en fait, avec Jesus et avec Firmino, ils parlent un peu le même foot en fait. Déjà, Coutinho et Firmino jouent ensemble, mais Gabriel Jesus, c'est un joueur qui lui aussi est au service de ses partenaires, tout en étant capable d'exploits individuels et de se dégager de certaines pressions de défenseurs. On l'avait vu sur un superbe geste, je crois que c'était au premier match face à la Suisse, là, où il se dégage d'un pressing, où il a 2-3 points sur le dos.
Il l'avait nettoyé, hein, le Suisse, derrière. Voilà. Chercher ça. Où il habitait. Hein.
C'est ça. Et là, il a encore fait un excellent match, même s'il ne marque pas. Il aurait pu marquer d'ailleurs. Ça m'aurait permis de passer un pari aujourd'hui avec sa tête qui touche le poteau, la barre même sur un centre de Fagner, il me semble. Mais ouais, ces trois-là, ça parle le même foot. Et ce qui est assez intéressant, c'est que l'entrée de Firmino, oui, parce qu'en fait, il est vraiment rentré dans la même position que Paulinho. Certes dans un schéma où le Brésil est très ultra dominateur et ne concédait rien défensivement, c'est-à-dire qu'il n'allait pas avoir besoin de défendre comme un milieu de terrain, mais voilà, il s'est retrouvé entre les lignes, et évidemment entre les lignes il apportait une qualité, surtout dos au but, bien supérieure à ce que peut faire Paulinho, qui dans ce rôle-là, dans cette équipe-là, sert surtout à, lorsque la balle penche à gauche et que Jesus se décale côté gauche pour aller combiner, offrir une solution à l'intérieur à Neymar, à Marcelo ou à Coutinho en point d'appui, et bien Paulinho à ce moment-là il se projette dans la surface et il offre une solution pour un, en cas de centre, etc. Et c'est vrai que l'entrée de Firmino a apporté, ça a fluidifié vraiment le jeu dans les 30 derniers mètres, et on peut déjà imaginer que lors du troisième match face à la Serbie, si les Brésiliens ont besoin d'aller chercher leurs résultats dans les dernières minutes, ça finira sans doute dans la même configuration que sur ce match. Mais pour rester un peu plus sur Gabriel Jesus, qui est aussi impressionnant, et je pense que Christophe en parlera plus après, c'est son activité défensive. On l'avait déjà mentionné face à la Suisse, mais là encore, il a défendu comme un mort de faim, et il compense aussi le fait qu'un Neymar soit encore un peu aujourd'hui, enfin, même pas un peu, mais soit encore déchargé de pas mal de tâches défensives.
Alors, on va se concentrer sur Jesus, Christophe, mais c'est aussi l'avantage de cette équipe du Brésil autour de Neymar, c'est que t'as des joueurs qui sont habitués à défendre, qui ont été éduqués par certains coachs pour défendre. Alors, Klopp, il y a Coutinho et Firmino, Jesus, il y a Guardiola, Paulinho a toujours été un travailleur, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il gagne du temps de jeu parfois, c'est qu'il travaille, qu'il se projette, et que ça masque un peu ses limites techniques. Willian a toujours été un défenseur, et ça s'est accentué avec Conte, qui lui a demandé beaucoup, c'était aussi le cas avec Mourinho. Donc finalement, t'es sur une école de joueurs qui ont un peu croisé tous des joueurs, des entraîneurs qui leur ont pris à défendre, à travailler devant, et Jesus c'est un peu le symbole de ça.
Ouais, et c'est amusant parce que j'ai l'impression que même s'il est positionné plus haut sur le terrain, dans l'absolu, il est meilleur sans le ballon que Paulinho, qui joue au milieu de terrain par exemple, qui lui va plus se projeter, qui est lui plus dans un rôle à la Matuidi, qui va tenir sa zone en tant que numéro 8, et qui ensuite va se projeter pour arriver un peu lancé en deuxième rideau sur des attaques, mais qui n'est pas réellement un pur récupérateur. Jesus, c'est un récupérateur sur les phases de pressing à la perte, en fait. C'est vraiment... Moi, ce qui m'a choqué pendant le match, hein, c'était le fait de voir à quel point à quel point il lâchait rien. Alors, on a l'habitude de voir ça avec City, mais disons là, ça tranchait un peu plus, parce que souvent, il allait récupérer dans la zone de Neymar. Donc, du coup, tu voyais Neymar qui était à 3 mètres du ballon, qui s'en désintéressait un peu, et Jesus qui était à 5 mètres et qui était celui qui allait récupérer. Et ça faisait, toute proportion gardée, mais ça faisait un peu du N'Golo Kanté que tu vois disparaître et réapparaître 10 mètres plus loin, et tu sais pas ce qu'il a fait, un peu comme les orques dans la mer que tu vois plonger et puis ressortir à l'autre bout, et tu sais pas ce qu'ils ont fait, il s'est passé que 2 secondes entre deux. Et c'est vrai qu'à seulement 21 ans, je trouve ça assez fort, au-delà, alors déjà dans l'aspect technique, parce que malgré tout, pour pouvoir récupérer le ballon, il faut quand même savoir ne pas faire de faute, etc. La traditionnelle faute d'attaquant, où tu as de l'envie, mais où tu vas vouloir y aller un peu à l'épaule ou faire une espèce de croche-pied par derrière, etc. Jesus fait quand même très très peu de fautes là-dessus. Mais dans l'envie, en fait, dans la volonté, parce que ça reste un super joueur de ballon, on l'a vu, il a quasiment tout, il manque encore un peu de finition. Mais sinon, dans la participation au jeu, dans les déplacements, etc., il est vraiment super fort. Et malgré tout, il a gardé, ou alors il a acquis, je ne sais pas, dans l'adolescence ou autre, je ne sais pas à quel moment c'est venu, mais cette volonté de faire un peu le sale boulot pour son équipe. Et c'est aussi pour ça, alors tu peux, contre le Costa Rica, je pense que même sans ça, ça se serait bien passé, mais c'est aussi pour ça que tu peux aligner Coutinho un cran plus bas, là où le milieu de terrain, c'était historiquement ces dernières années, Paulinho, Casemiro, Fernandinho, à savoir quand même un truc assez conservateur. C'est pour ça que tu peux remplacer Fernandinho par Coutinho aussi. C'est parce que tes ballons, généralement, s'ils arrivent dans la zone des trois milieux, il a déjà fallu bosser pour y arriver, parce que tu as déjà eu Jesus qui t'a un peu embêté dans les pattes. Et donc, du coup, tu récupères beaucoup plus facilement sur ta ligne de milieu que si tu avais des joueurs offensifs qui se contentaient d'attaquer et de briller sur les phases avec ballon.
Ouais, c'est aussi ce qui a permis l'entrée de Firmino, là, pour répondre à une question que je vois de Clément Alibre sur Twitter, qui demande si l'entrée de Firmino a changé la face du Brésil parce que Paulinho manquait de projection. Alors, en effet, ça a aidé, et c'est aussi pour ça que Tite peut se permettre des changements audacieux comme ça et disons variés, ou de faire entrer Firmino aussi bas sur le terrain. Bon, c'est victoire 2-0 du Brésil qui permet d'ailleurs à Christophe de passer un pari. Il faut le rappeler que c'est, je crois, le premier de la compétition,
Christophe. Le deuxième, mais...
Le deuxième. Donc un enchaînement inédit qui t'a inspiré peut-être dans cette comparaison avec le monde marin qui m'a totalement surpris.
Parce que j'ai vu un orque en fait la semaine dernière, c'est pour ça.
D'accord.
Un orque, n'importe quoi, un phoque. En fait, pourquoi je parlais d'orque ? Enfin bref, peu importe, continuons. On n'est pas très bien.
D'accord, c'est pas ta spécialité les animaux. Mais pour si on doit se projeter un peu plus et surtout faire le bilan de l'adversaire du Brésil qui était le Costa Rica, Florent. Équipe qui en 2014 a surpris son monde en allant jusqu'en quart de finale en embêtant les Pays-Bas. Là, ils finissent avec deux défaites après deux matchs, déjà éliminés, zéro but marqué, très peu d'occasions. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette équipe à part les performances de Keylor Navas ?
Rien. Non mais, franchement, il y a par rapport à 2014, ils étaient sortis d'un groupe aussi où c'était avec l'Uruguay, l'Italie et l'Angleterre, il me semble.
Et, ouais, c'était un gros groupe. Ouais.
Et il s'était passé aussi quelque chose, c'était le fameux match, le fameux Italie-Angleterre à Manaus qui avait donné l'impression de couper les jambes aux deux équipes ensuite sur les deux autres matchs de poule, et où ils étaient totalement passés à côté. Donc c'était peut-être aussi, au-delà de leur projet de jeu qui avait plutôt bien fonctionné, peut-être aussi un peu un concours de circonstances qui les a amenés jusqu'en quart de finale, et un très grand Keylor Navas aussi. Mais voilà, après, le truc, c'est que par rapport à il y a deux ans, même si j'ai pas de grands souvenirs de cette équipe, il me semble que les cadres n'ont pas vraiment changé depuis, et qu'en fait, ils ont surtout deux ans de plus, quoi. Ça reste, je crois que c'était...
4 ans, même.
Oui, 4 ans, ouais. Pardon. Je crois que c'était, cette fois-là, une des sélections les plus âgées du tournoi. C'est un petit peu une constante, d'ailleurs, chez les sélections d'Amérique centrale. Je crois qu'elles font partie vraiment, en termes de moyenne d'âge, des plus âgées du tournoi. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur le Costa Rica, donc je vais te laisser enchaîner.
on va passer à l'autre match du groupe, parce que ce groupe va quand même connaître une troisième journée qui peut être pleine de surprises, qui peut être assez sensationnelle, avec la victoire de la Suisse sur la Serbie, victoire 2-1. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur cette rencontre, parce qu'il y a, disons, eu plusieurs visages dans ce match et des équipes qui ont dominé, qui ont ensuite disparu, qui sont revenues dans la rencontre. On va commencer par toi, Christophe, avec cette première période serbe, notamment marquée par la titularisation de Kostic, notre grand ami. Mais c'est pas lui vraiment qu'on a retenu dans le match, c'était le démarrage de Tadic qui a été excellent en première période, qui était un peu sur le rythme collectif de la Serbie, et ensuite on les a vus peiner et disparaître jusqu'au but de la Suisse en deuxième période, et finalement manger le momentum en pleine gueule, un peu comme s'ils étaient en troisième quart-temps ou quatrième quart-temps de NBA face aux Warriors. C'était très particulier parce qu'on n'a pas l'impression que la Suisse ait dégagé grand-chose collectivement.
Ouais, c'est selon que tu analyses spécifiquement la première ou la deuxième période, t'as pas du tout la même lecture du match. Et du coup, c'est assez difficile. Alors, on a notre explication, hein, mais c'est assez difficile d'analyser le match dans sa globalité. Et c'est vrai que t'as le but à la dernière seconde qui fait basculer ça sur une victoire suisse, mais logiquement, si tu raisonnes de manière un peu basique, hein, mais la Serbie doit gagner la première 1-0 et perdre la deuxième 1-0, et ça doit finir à peu près partout, quoi, globalement, sur le rapport de force générale. Si on se concentre sur la première période, il y a deux choses. Il y a Florent m'avait donné la stat tout à l'heure, je crois que c'est 18 à 5 au niveau des duels aériens gagnés en première période par les Serbes, ce qui est quand même un chiffre considérable. On doit être de tête au-dessus des 70%. Donc déjà ça, alors il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Il y a à la fois l'engagement que tu mets, le fait d'être dans certaines zones plus grandes que ton adversaire, par exemple, ou des choses comme ça, parce que les duels aériens avec Mitrovic dans la surface, il y avait, bon, c'est comme ça qu'il marque le but, mais il y a aussi une première occasion que sort Zomer. Et vraiment, en fait, c'est vrai que tu parlais de Tadic, c'est la connexion Tadic-Mitrovic. Sous Kostic, de l'autre côté, je préfère pas en parler. C'était pas
complètement déconnecté.
C'était assez particulier, même s'il a un peu plus montré qu'il était un joueur de foot professionnel que la fois dernière, tu sens quand même que a priori son plafond est quand même pas très très haut.
Et c'est vrai que Tadic, sur la passe map, ça reste un trou noir. Il y a aucune passe vers l'avant de sa part.
Ouais, ou alors il a voulu en faire, mais
ils ne sont pas arrivés.
Mais c'est vrai que t'avais Tadic. En gros, c'était un peu récupération assez haute de Matic ou Milivojević. Voilà, Milivo. Enfin bref, vous avez compris. Qui généralement, alors soit ça repartait directement sur Tadic, qui faisait sa petite tambouille, qui donnait le tournis à Rodriguez et qui centrait sur Mitrovic. Soit il y avait un petit relais par Milinkovic-Savic avant, qui lui-même réorientait sur Tadic. Mais bref, t'avais vraiment un milieu de terrain qui était assez, assez difficile à passer, là, les deux sentinelles. Ensuite, ça donnait quasiment tout le temps à Tadic, qui faisait des centres. En plus, il arrivait à se donner du temps sur les centres parce que ses feintes, Rodriguez notamment, étaient toujours pris dedans. Et comme il avait le loisir de bien centrer et que donc les centres étaient bien donnés, t'arrivais sur des duels vraiment... des duels secs où la balle était en gros dans une zone où deux joueurs se la disputent, et là-dessus Mitrovic gagnait les duels aériens. Donc tant que le milieu jouait assez haut et empêchait la Suisse de jouer, bah le ballon arrivait assez vite dans des zones dangereuses à 30 mètres du but, et là c'était Milinkovic-Savic et Tadic qui étaient chargés de faire des différences, et ces différences-là ils arrivaient à les faire, sachant qu'en plus quand tu ne récupérais pas forcément le ballon haut, bah, le simple fait de balancer loin devant et d'espérer que Mitrovic, notamment, gagne le duel aérien, pouvait te permettre de remonter le bloc assez facilement. Donc là-dessus, sur la première période, la Suisse n'a pas existé parce qu'elle était mangée dans l'impact dans quasiment tous les domaines. Alors, pas existé, ça ne veut pas dire qu'elle était ridicule, mais simplement, elle n'est pas forcément voix au chapitre parce que sur à peu près toutes les zones du terrain, bah, c'est comme si tu joues les All Blacks, si tu exploses à l'impact à chaque fois, peu importe le joueur à qui tu donnes le ballon, bah forcément tu fais que reculer et tu peux jamais véritablement aller dans le camp adverse et tester une défense qu'on avait annoncée, qu'on avait vue sur le premier match assez limitée.
Ouais, mais c'est ça le problème, Florent, pour la Serbie. Et d'ailleurs, c'est un truc qui s'est posé, que ce soit pendant les temps forts ou les temps faibles. Là, je suis en train de regarder l'évolution des expected goals sur toute la rencontre, même en première période quand la Serbie était meilleur, finalement la Suisse se crée des grosses occasions et finit d'ailleurs devant la mi-temps dans ce niveau-là. Et puis c'est encore pire en deuxième, surtout après le premier but de l'égalisation de Xhaka, où là la Serbie était complètement déséquilibrée, a cherché à tout prix la victoire en fin de match parce qu'ils savent qu'ils affrontent le Brésil après. Et à partir du moment où ils ont avancé sur le terrain, ils ont été vraiment hauts et qu'il fallait défendre des longs espaces, l'âge de la Serbie et la lourdeur de la ligne défensive, tu l'as senti, notamment une fois que tu avais passé le premier rideau, qui a été moins bon et moins sérieux dans ce travail-là, et ça s'est payé même face à des joueurs qui sont plus très rapides. Alors Shaqiri donne toujours une impression de vitesse parce qu'il a des petites pattes qui vont à 3000 en termes de fréquence, mais c'est pas non plus un athlète comme auparavant, et même ça, la Serbie n'est pas capable de le défendre.
Oui, mais en fait la Serbie, il y a plusieurs problèmes qui se sont ajoutés. Le problème de base, c'est comme tu le disais, la lenteur de leur défense. Alors tu peux parler, il y a la défense centrale, mais c'est même toute la défense, parce que quand tu prends sur la largeur, t'as Ivanovic, Tosic, Kolarov, les trois, ça a 33 ans ou plus, je crois. Et Milinkovic est beaucoup plus jeune, et même, je crois qu'il est très jeune, il me semble, Milinkovic.
Ouais, il a 20 ans, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Comme c'était pas lui qui défendait sur Shaqiri sur le but, ça s'est vu.
Ouais, par exemple. Mais pour rester sur la prime, donc il y a d'abord le problème défensif. C'est-à-dire qu'en gros, on l'avait vu déjà face au Costa Rica, s'ils n'arrivent pas à récupérer la balle au niveau de leur milieu de terrain, dès que ça arrive au sol, au niveau de la défense, c'est la panique. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances pour voir une récupération propre du ballon avec une relance. Donc, et une capacité du coup à ressortir et peut-être à contre-attaquer. Donc déjà, à partir du moment où les milieux n'arrivent pas à récupérer des ballons, ça devient très compliqué. Or, quand tu vois que pendant la dernière, dans le dernier quart d'heure pardon, de la première mi-temps, 33e minute, Sergueï Milinkovic-Savic prend un jaune, 39e, Milivojevic prend un jaune, 46e, Matic prend un jaune. C'est-à-dire que ces trois mecs-là qui sont capitaux pour que la Serbie puisse récupérer des ballons et protéger ou du moins limiter les dégâts pour sa défense, ces trois mecs-là sont avertis en fin de première mi-temps. Et ça déjà, ça change totalement le momentum du match et la deuxième période, dans le sens où le fait que le système de jeu serbe fasse la part belle quand même au duel, etc., surtout dans l'axe, parce que Tadic et Kostic, puis Ljajic qui est rentré en deuxième mi-temps, sur les côtés, ils sont pas dans l'optique de fermer à l'intérieur, ils sont plus dans l'optique de suivre les montées des latéraux adverses et de se positionner par rapport à eux, voire par rapport au central adverse pour lui laisser moins de temps pour jouer. Et donc à partir du moment où tu as ça, tu sais que tes trois milieux vont devoir couvrir à nouveau de grands espaces, mais en plus, ils ont beaucoup moins de liberté défensive parce qu'ils ont déjà pris un carton et que avec un mec comme Shaqiri qui peut les éliminer sur le premier coup de rein, ils peuvent pas l'accrocher, ils peuvent plus faire de fautes en fait. Et ça a été très problématique je pense pour les Serbes et ça a vraiment contribué à faire basculer petit à petit la rencontre. Parce que du coup, les milieux pouvaient moins écoper et moins limiter ou ralentir les offensives adverses. Et derrière, la défense était incapable par-dessus ça de contrôler et d'avoir un semblant de maîtrise dans le final. Alors la solution pour les Serbes, ça aurait peut-être été de faire un changement au milieu. Mais quand tu vois leur banc de touche, ils sont pas non plus très très fournis en joueurs de la qualité des trois qui étaient titulaires. Ou alors réussir à resserrer le bloc et à être plus compact durant la deuxième mi-temps, mais ça, voilà, comme tu le disais, il y avait aussi l'optique.
Ah, t'avais le Brésil à l'esprit, ouais.
Voilà, t'avais forcément le Brésil à l'esprit. Le troisième match, et tu pensais pas forcément à. Enfin, à partir du moment où il y avait un partout, tu les imaginais pas forcément perdre ce match non plus. Mais c'est ce qui s'est passé. Et je pense que ouais, la bascule, elle a vraiment lieu lorsque les trois milieux sont avertis et que tu reviens en deuxième mi-temps. Et là, ça devient très compliqué parce que ces milieux-là qui étaient capitaux pour que ton bloc résiste assez haut et pour un peu masquer les faiblesses de ta défense, ces trois-là sont obligés de jouer au ralenti ou de lever le pied un peu. Et les Suisses en ont parfaitement surprofité avec un Shaqiri qui s'est très souvent rendu disponible justement à l'intérieur du jeu pour aller mettre la pagaille entre ces trois-là, et ça a très bien marché pour les Suisses.
Ah, d'ailleurs, le problème du carton jaune, c'est peut-être un truc qu'on avait oublié d'évoquer sur le cas de Matuidi hier, parce qu'on nous l'a fait remarquer sur Twitter qu'il avait pris un carton jaune, qu'il a peut-être amené ensuite à se contrôler sur la partie défensive pour pas laisser l'équipe de France à 10. Si on reste sur les milieux serbes, il y en a un que tu as retenu, Christophe, et évidemment celui qu'on attendait le plus et dont on espérait le plus d'étincelles, c'était SMS, Milinkovic-Savic. Et là, sur la deuxième rencontre, alors il a fait un peu la trajectoire inverse de Pogba, où Pogba avait été décisif sur le premier match, mais en n'étant pas forcément à son zénith. Il a été très bon sur le deuxième match contre le Pérou. Là, Milinkovic-Savic a plutôt décliné.
Il a plutôt décliné. C'est vrai que, objectivement, je ne trouve pas qu'il fasse un si mauvais match que ça. Mais à partir du moment où tu es la star de ton équipe, on attend quand même de toi de faire autre chose qu'un match correct, quoi. Et c'est un peu le problème. Alors c'est vrai que le carton jaune qu'il prend, et il est un peu stupide, c'est une espèce de semelle là sur un duel aérien, et lui le prend, c'est le premier à le prendre, il le prend après un peu plus d'une demi-heure de jeu. Et je trouve que ça l'a un peu bridé dans l'agressivité, ce qui fait que on l'a beaucoup moins vu à la récupération. Ce qui est quand même, alors même si là il jouait sur un poste très avancé comme en deuxième période au premier match, il doit quand même, peu importe sa position sur le terrain, il doit quand même être capable de récupérer des ballons. Et là, pour le coup, je l'ai pas trouvé vraiment dans l'aide à Matic et Milivojević en deuxième période. Et puis, au-delà de ça, quand il avait le ballon, très souvent avec la Lazio, alors c'est parfois plus un joueur d'éclair de génie qu'un vrai régulateur, quoi. Il va pas, tu vois, c'est pas Xavi, c'est parfois plus une frappe et un truc génial toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, plutôt que véritablement une régularité dans tout ce qui fait juste, mais pas forcément flamboyant. Et ce qui fait que du coup, je pense que ça aide aussi un peu sa valeur marchande à monter, parce que quand tu te fais des compilations de ses plus beaux gestes, etc., c'est sûr que c'est assez facile à marketer, même s'il n'a pas forcément un nom, une nationalité qui font vendre. Mais tout ça pour dire que, en fait, sur le premier match, comme parfois en club, il lui arrivait de mettre le pied sur le ballon et t'as l'impression que le temps s'arrête et tu t'attends l'éclair de génie. Et tu sens vraiment sa patte sur le match. Alors parfois, c'est des frappes pas cadrées ou autres et tu te dis oui, bon, tout ça pour ça. N'empêche que normalement, quand il y a la balle, quelque chose se passe ou quelque chose peut se passer. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que quand t'arrivais à le servir, finalement, bah, c'était juste un maillon de la chaîne. Et en fait, il réorientait les ballons vers Kostic, vers Tadic, ou alors remettre en retrait, essayer de faire un 1-2 avec Mitrovic, mais qui passait pas forcément parce que la défense suisse avait resserré les rangs et que au sol, tu l'as dominé un peu moins que dans les airs. Et c'est vrai que je suis un peu déçu. Il y a juste une frappe bon, qui passe à côté en début de match, mais où là, j'ai senti, en gros, tu le vois armé, etc., tu vois que la position du corps est bien, tu vois que la frappe est pure. Alors, c'est pas cadré, n'empêche que tu sens quand même le joueur qui est en contrôle de ce qu'il fait. Et après, c'était lui, mais ça aurait pu être, entre guillemets, n'importe qui d'autre. Les déviations qu'il fait, elles ont rien de génial. La position qu'il occupe, elle a rien de décisive, elle a rien de déséquilibrant. Et son travail défensif, qui est censé être sa qualité... La qualité qui le rend vraiment spécial et qui lui permet d'être à la fois 6, 8, 10 sur certaines séquences, ouais. Voire 9,5, ne se voyait pas.
Tu parles de 6, 8, 10, il y a une question de Non et Toi sur Twitter qui nous demande est-ce que Milinkovic n'est pas mal utilisé en 10 et qu'il ne serait pas plus utile face au jeu. Alors dans ce que propose la Serbie, c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément, comme le disait Florent, le mec ensuite à mettre plus haut si Milinkovic recule. Mais quand tu as un joueur de cette qualité technique, tu as aussi envie que ce soit celui qui touche le plus de ballons. Et peut-être que s'il joue plus bas, il arrivera à ça. Est-ce que c'est quelque chose que le coach serbe peut considérer pour la suite de la compétition ?
Dans l'absolu, oui. Mais quand je vois la manière dont se déroule cette Coupe du Monde, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment un profil qui te fait gagner des matchs. C'est dans ces 4-2-3-1 là, il vaut parfois mieux avoir ton 10 entre guillemets de la ligne de 3 derrière l'attaquant qui soit proche d'une zone décisive pour faire les différences. Parce que d'avoir une courroie de transmission vraiment capable de prendre la balle et de faire 15-20 mètres en gros du rond central jusqu'aux 30 mètres, quelque chose comme ça, bah c'est quasiment pas utile parce que tout le monde est très regroupé et en gros tu te retrouves très facilement à donner la balle aux ailiers, attendre que les ailiers ou les latéraux, selon la manière dont ça se joue et si les ailiers rentrent, soient en position de centre. Ensuite, tu balances des centres pour un joueur qui prend de la place dans la surface. Dans l'absolu, moi je préférerais, à partir du moment, si tu presses haut, c'est pas gênant qu'il soit assez avancé, parce que finalement Matic et Milivojević seraient assez proches de lui, puisque tout le monde serait regroupé dans les 30-40 mètres adverses. Quand tu souffres un peu plus, c'est vrai que ça serait bien qu'il recule un petit peu pour que tu puisses le trouver, parce que c'est pas Matic qui va jouer le rôle de meneur reculé, même s'il a beaucoup d'autres qualités par ailleurs. Mais c'est vrai que dans cette situation-là, avec en plus sa qualité dans le jeu aérien, tu peux te dire, bah, limite, le coller à Mitrovic, ça te fait deux grands joueurs qui prennent de la place et qui peuvent gagner des duels aériens. Et ça peut aussi être une façon de gagner 40 mètres presque plus facile que de faire des passes au sol. Alors, pour la beauté du foot, etc., j'aimerais bien qu'il soit une espèce de... Allez, inventons un poste 8,5, quoi. Mais dans cette Coupe du Monde-là, je suis pas sûr qu'avoir un super numéro 8... à moitié box-to-box, un peu à la Yaya Touré, enfin, ou autre, ça soit vraiment quelque chose qui te permette de gagner des matchs.
Bon, t'as parlé de Mitrovic, c'est le joueur fétiche de Florent sur ce tournoi. Il a vécu un match où il a été à la fois rayonnant à certains moments et puis très limité par l'impact physique suisse. Impact physique, soit je pense à la Russie, je sais pas pourquoi. On se pose des questions sur la Suisse qui ont été très très athlétiques et à la limite de la faute très souvent sur ses interventions défensives. L'arbitre Félix Bridge a tendance à laisser jouer, il le fait aussi en Ligue des Champions. Là, c'était peut-être exagéré et ça a vachement desservi Mitrovic qui a été pris plusieurs fois avec les bras, qui a été ceinturé et qui n'a pas pu forcément dominer dans les airs comme il l'avait fait notamment au premier match.
Bah, en fait, le truc, c'est que quand tu regardes les duels aériens qu'il gagne, il en gagne 8 au total. Et dans la surface, il en gagne 4 en première mi-temps, dont le but, évidemment. Et en fait, en deuxième, comme je disais tout à l'heure, la Serbie était beaucoup moins bien collectivement, du fait des milieux, par exemple, qui sont obligés de lever le pied, etc. Mais donc, il a eu moins de situations, mais c'est vrai que cette situation de la deuxième mi-temps, où il se retrouve pris entre deux joueurs, c'est Schär et Lichtsteiner, je crois, où Schär ne regarde même pas le ballon, il regarde que Mitrovic, et Lichtsteiner fait la deuxième lame et il attaque, et il le prend dans le dos. Tu te poses des questions. Moi, je me demande encore. Enfin, j'attends la VAR encore. Hein, j'attends le coup de téléphone des mecs en cabine. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment il peut ne pas y avoir pénalty là-dessus. Mais bon, c'est un des. On va dire, ça restera une des questions non résolues de cette Coupe du Monde. Mais c'est vrai que en deuxième mi-temps, il a eu plus de mal. Il a aussi une situation où il est tout seul au deuxième sur un centre fort de Kolarov au sol. Et il n'a pas l'instinct de se jeter, ou il arrive un peu tard, ou il marque un temps d'arrêt, je crois, Christophe, il me semble. Mais bref, il passe un peu à côté. Donc c'est un joueur qui, comme prévu, s'est montré sur ce match-là, sur le précédent, très dominant dans les airs, et beaucoup plus laborieux au sol. Mais il reste, après deux rencontres, et pour surveiller ce qui se passe sur Twitter, sur ma timeline, j'ai l'impression que... Comme c'est un des rares pronostics, malheureusement, il ne rapportera pas d'argent, mais c'est un des rares joueurs qui, en effet, se profite de cette Coupe du Monde pour vraiment se signaler et taper dans l'œil de pas mal de gens, puisque c'était un peu un joueur qui était sous les radars jusqu'ici, du fait de son parcours assez chaotique à Newcastle, malgré ses 6 bons derniers mois du côté de Fulham.
On va passer un peu à la Suisse, qui a réussi à faire un gros coup, là, grâce à notamment... au but de Shakira en tout un match. Il y a des questions sur Twitter concernant la performance suisse, avec notamment une question de Nadalito, donc j'imagine fan de Rafael Nadal, qui nous demande si on voit la Suisse embêter des très grands en 8e ou même en quart. Alors avant ça, il faut qu'ils passent en 8e ou en quart, mais vu qu'ils affrontent le Costa Rica qui est déjà éliminé au dernier match, et que s'ils perdent pas, ils sont sûrs de passer, ça devrait le faire pour la Suisse. Mais ça rejoint un peu une réflexion de Laurent Favre, un bon journaliste du journal Le Temps en Suisse, qui écrit souvent des bons papiers sur le foot, qui dit que c'est peut-être le meilleur match de l'équipe de Suisse depuis Suisse-Roumanie en 1994. Alors la Suisse n'a pas connu deux décennies exceptionnelles depuis, mais ça fait quand même une sacrée référence, en tout cas pour le public suisse. On les a pas trouvés collectivement, Christophe, impressionnants. Alors ils ont eu une bonne séquence en fin de match, où d'un coup on a vu la qualité de certains joueurs, mais il n'y a pas, disons, eu des séquences, et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé de la Serbie. Il n'y a pas eu des séquences qu'on les a trouvées être une bonne équipe ou une équipe avec un gros potentiel comme on l'a pu le faire sur le Mexique, la Serbie et même des équipes qui ont été éliminées, qui ont eu des périodes emballantes. Là, la Suisse va passer sur des matchs qui sont réussis en termes de résultats bruts, mais à aucun moment tu sens quand même ils peuvent gêner, mais tu sens pas un potentiel exceptionnel dans cette équipe.
Bah, alors, ils ont peut-être une capacité à faire déjouer l'adversaire ou à l'user qui fait qu'en fin de match, ils sont plus frais. Il doit y avoir forcément un truc, mais à la fois Florent et moi, quand on a préparé un petit peu ce dont on allait parler, c'est vrai qu'on était un petit peu à court d'idées sur la Suisse parce qu'on a tous les deux l'impression qu'il naît peut-être du scénario du match où du coup, t'as une photographie en première période qui généralement est plus fidèle à la réalité des forces en présence que la deuxième période. Et c'est vrai que le basculement qui s'opère en seconde période, on a plus l'impression que c'est la Serbie qui a changé les choses, enfin qui a arrêté de faire certaines choses, qui du coup a permis à la Suisse d'émerger, plutôt que véritablement la Suisse qui change quelque chose. Et c'est pour ça que notre lecture de la Suisse n'est pas forcément à la fois développé, parce que j'ai pas énormément de choses à dire sur, encore moins là, par exemple sur Berami Chaka. Sur Berami, j'ai beaucoup moins de choses à dire que ce que tu pouvais dire après le premier match, où il était toujours dans la zone de Neymar, par exemple. Même Akanji, qui fait une super seconde période au duel, en première, c'était plus compliqué. Donc c'est tout, même Rodriguez, qui jouait assez haut, Lichtsteiner, pareil, qui sont capables d'apporter, de faire le lien, la relation Lichtsteiner-Shaqiri côté droit. Rodriguez qui apportait des solutions en jouant très haut côté gauche, alors que Gilbert avait tendance un peu à se ressenter dans le demi-espace. Oui, il y a ça, mais d'un autre côté, Rodriguez a eu d'énormes difficultés défensives en première période. Donc tout ça pour dire que c'est deux visages, mais que j'ai un peu de mal à distinguer le second visage du premier, et que je me dis, si la Serbie avait maintenu la même intensité, le même impact dans les duels, bah Berami Chaka, je suis pas sûr qu'au milieu de terrain, ils auraient émergé comme ils ont émergé en seconde période. Donc c'est pour ça que c'est difficile vraiment de voir si la Suisse a encore une vitesse supplémentaire. Je pense que là, ils sont plus ou moins... Au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Il y a une variable, c'est Shaqiri, dont on ne saura, je pense, jamais quel est le véritable potentiel, le véritable niveau, parce que sa carrière s'est un peu enlisée après des débuts très prometteurs. Et tu peux te dire, est-ce que en fait maintenant c'est son vrai niveau, et puis voilà, est-ce que il a, enfin voilà, c'est assez difficile véritablement de savoir ce que vos joueurs, j'ai l'impression qu'en compétition internationale avec la Suisse, il est plus proche du niveau qui lui a permis d'être bon et d'être parfois dans la rotation, voire titulaire au Bayern, que celui qui l'emmène dans les tréfonds de la Première Ligue. Mais c'est vraiment lui qui est chargé de faire toutes les différences. L'homme tellement musclé qu'on dirait un nain géant. Une personne qui a soufflé qui nous a soufflé cette remarque se reconnaîtra. Avec des trapèzes incroyables. C'est vrai qu'en fait, il est, tu le vois torse nu, alors il est musclé, mais t'as d'autres joueurs qui sont finalement plus ou moins aussi musclés que lui. Mais son allure, je pense, elle est liée au trapèze qu'il a, qui lui donne un peu une allure de bossu. C'est assez bizarre, ce trapèze, sans surdimensionner.
Ça déborde, en fait, de son cou. Tu vois, ça en dirait plus un être humain. C'est pour ça que c'est un effet. Enfin, c'est pas un être humain qui est formé normalement, finalement. Il y en a qui arrivent à être super musclés et ça reste. Des armoires, mais des armoires logiques. Là, c'est une armoire où t'as l'impression que l'architecte il a dépassé le truc, ou le menuisier il a raté le bord.
C'est vrai, ça me rappelle les seules autres personnes avec des trapèzes aussi surdimensionnés que j'avais vu. Personne n'aura la référence, mais c'est DeSean Stevenson, l'ancien joueur NBA. Mais bref, tout ça pour dire que Shaqiri a vraiment beaucoup de responsabilités sur les épaules. Heureusement, autour de lui, il a notamment des latéraux, donc comme je disais, qui se projettent, qui font des courses, qui font un peu diversion, parce que quand Lichtsteiner se met à débouler côté droit, même si c'est plus un super joueur, tu dois quand même faire attention à sa présence, parce que s'il est servi en bout de course, il peut toujours donner un super centre. Pareil pour Rodriguez, qui en plus est un super pied, parce que c'est une menace sur coup de pied arrêté. Mais une fois que tu as le ballon, ça peut vite être, je donne la balle à Shaqiri, et puis Shaqiri essaie de faire des différences individuelles. Donc pour ça, je pense que ta solidité, ton manque de flamboyance et ta cohérence générale peut te permettre d'embêter des gros, mais embêter, genre tu les pousses en prolongation ou tu perds 1-0 et le gros s'est pas amusé. De là, imaginer cette équipe au-delà des quarts de finale, voire au-delà des huitièmes selon contre qui tu tombes, ça me paraît quand même très très... très très excessif, parce que je vois pas non plus un talent démesuré sur les différents postes.
De toute façon, ils sont bien partis pour passer, donc on reparlera d'eux lors du match contre le Costa Rica ou sur les huitièmes de finale. Mais il faut surtout parler de ce Brésil-Serbie qui nous attend, Florent.
Ouais, juste avant, vite fait sur la Suisse.
Je t'en prie.
Faudra surveiller aussi, comme le disait Christophe, contre qui il tombe, parce que si donc ça va croiser avec le groupe F. Et jusqu'ici, le groupe F, le Mexique a pris une petite option en battant l'Allemagne. On verra s'il confirme demain face à la Corée du Sud. Mais on pourrait partir sur un huitième avec un Mexique-Suisse, dans l'optique où la Suisse terminerait deuxième du groupe derrière le Brésil, s'il n'y a pas de surprise. On en parlera après, du Brésil-Serbie. Et tu pourrais te retrouver avec un quart de tableau avec Mexique-Suisse d'un côté et de l'autre, le vainqueur du groupe H, donc qui reste très ouvert, avec le Sénégal, le Japon, la Pologne et la Colombie. Et le deuxième du groupe G qui semble être soit l'Angleterre, soit la Belgique. Donc tu pourrais avoir un quart de tableau qui pourrait accoucher d'un demi-finaliste peut-être assez surprenant au final. Et dans ce cas-là, pourquoi pas aller voir.
Soit inédit, soit quelqu'un qui n'a pas été là depuis longtemps.
C'est ça, voilà.
Ça devrait être quelque chose comme ça. Et donc ce Brésil-Serbie, donc Flo, je te laisse continuer. C'est un match qui va être ultra intéressant, d'abord parce que les deux équipes peuvent se qualifier, parce que les deux équipes ne sont pas sur les mêmes courbes, parce qu'il y a du talent des deux côtés. Donc vas-y, parle-nous un peu de ce Brésil-Serbie et de ce qui peut être dangereux pour les deux équipes. On a quand même du mal à imaginer que la ligne défensive serbe sauve assez souvent des situations pour que de l'autre côté, offensivement, Mitrovic et Milinkovic marquent assez de buts pour passer.
C'est ça. Sur le papier, la capacité des Brésiliens à faire des différences en 1 contre 1, et que ce soit au milieu avec Coutinho, Neymar, Jesus, Willian à droite ou Douglas Costa, si lui est préféré lors du troisième match, quand tu ajoutes toutes ces solutions-là, qui en plus ont été très en réussite aujourd'hui face au Costa Rica dans leur dribble, ils sont à 19 dribbles réussis sur 26 tentés, en ajoutant tout le monde, avec un Costa par exemple qui est à 5 sur 7. Tu te dis que voilà, face à la défense serbe, ça risque d'être très compliqué pour Ivanovic ou Kolarov, par exemple, des deux côtés. Maintenant, ce qui sera intéressant, ça va être de voir ce que va préparer Kristajic sur le plan défensif, parce qu'il faudra forcément défendre différemment. On risque, à mon avis, de voir des prises à deux de la part des ailiers sur Neymar, donc des Tadic et des Ljajic ou Kostic qui risquent d'être amenés à défendre assez bas. Est-ce qu'il va peut-être inverser son milieu, mettre un numéro 6 pour avoir peut-être le plus de contrôle dans la surface de réparation, en faisant peut-être reculer Matic d'un cran et associer Milinkovic, Savic, qui du coup serait face au jeu avec Milivojevic, les deux côte à côte. Ça isolerait Mitrovic, mais ça permettrait peut-être de renforcer le milieu. Donc voilà, il va falloir voir dans les 10-15 premières minutes comment réagissent les Serbes, et est-ce qu'ils tiennent le coup, et est-ce qu'ils ont préparé sur le plan tactique. Mais c'est vrai que, ne serait-ce que par rapport au tempérament des Serbes et à leur capacité à élever et à mettre beaucoup d'intensité et beaucoup d'impact sur le plan physique, ça va être aussi un gros test pour les Brésiliens, parce que là, au final, c'est quasiment un 16e de finale auquel on va avoir droit, et avec deux équipes où il y a quand même pas mal de techniciens. Alors, il y en a plus côté brésilien, mais il y en a aussi de l'autre côté, donc... Faut espérer que ce match soit pas tué dans les 15 ou 30 premières minutes avec un gros début brésilien, histoire d'avoir un peu de suspense. Mais c'est vrai que pour ça, il va falloir que les Serbes élèvent vraiment le niveau sur le plan défensif, parce que s'ils défendent comme face au Costa Rica et face à la Suisse, normalement les Brésiliens devraient rapidement faire la différence.
Et on suivra ça dans quelques jours, et on peut passer maintenant au match de la poule de l'Argentine. Alors on rappelle que l'Argentine a été battue par la Croatie 3-0 et que ça a chamboulé cette poule, avec le match contre le Nigeria et l'Islande qui du coup était très attendu. Est-ce que le résultat allait favoriser l'Argentine ou la condamner complètement? On est plutôt sur la première solution, avec une victoire du Nigeria 2-0. Christophe, je vais te lancer là-dessus. Alors c'est pas le match que t'as préféré de la compétition, soyons honnêtes. t'as pas pris beaucoup de plaisir devant cette rencontre. On a vu quand même ce qu'on s'attendait à voir, c'est-à-dire l'Islande avec un bloc compact, l'Islande qui mise beaucoup de choses sur les coups de pied arrêtés et les touches, et puis le Nigeria qui a profité de toutes les occasions en transition et sur attaque rapide pour briller, avec notamment Ahmed Moussa qui est revenu en 2014 quand il s'était révélé un peu dans cette compétition également.
Il y a Ahmed Moussa qui avait eu l'immense honneur d'avoir un tweet qui lui était consacré, un tweet écrit par Raphaël Cosmidis.
Oh oui, en octobre 2014.
Il faut suivre ce joueur. Donc, ouais. Si même Raphaël Cosmidis avait tweeté, c'était...
Que tout le monde le savait.
C'est quand même qu'il y avait potentiel à découvrir. Non. alors oui, là, pareil, deux mi-temps assez distinctes, mais pas pour les mêmes raisons que sur le match de la Serbie. Parce que l'Islande, finalement, sur la première période, est en contrôle, mais elle est en contrôle sans face à un adversaire qui était quand même assez inoffensif, et en contrôle sans s'exposer, quoi. C'est-à-dire que c'était pas le contrôle espagnol où tu fais tourner dans le camp adverse, mais où tu as quand même 6-7 joueurs très proches du but et qui peuvent être devant le ballon sur certaines séquences. Et si tu la perds, faut faire attention parce que tu n'as plus que 3 joueurs en couverture. Là, c'était du contrôle, mais ça veut dire que c'était le Nigeria attendait et l'Islande avait un peu la balle par défaut et de temps en temps essayait de faire des différences quand elle voyait un espace. Mais bon, ça restait quand même très prudent sans trop se livrer. Elle peut avoir des regrets sur cette période-là, parce que si Sigurdsson joue une ou deux situations un peu mieux, parce que c'est censé être celui qui voit dans cette équipe, qui voit des espaces et des angles de passe là où il n'y en a pas forcément, et qui est ton meneur de jeu, qui te permet de ne pas être uniquement dépendant soit d'occasions sur des transitions, soit sur coups de pied arrêtés. Et là, pour le coup, il y a des choses qu'il aurait dû réussir et qui manquent un peu. Mais sinon, ça restait quand même majoritairement... On essaye de mettre la balle dans des zones un peu dangereuses pour avoir un centre, et puis si on peut pas centrer, eh ben au moins on obtient une faute ou une touche, et puis sur la touche on balance loin devant, ou sur le corner pareil, et en gros on met dans la boîte, et puis au duel aérien comme contre l'Angleterre, ça peut payer. Et en deuxième période, moi ma lecture c'est que l'Islande c'est un petit, enfin déjà au fil du match, mais ça se paye en seconde période, a commencé à prendre un petit peu confiance, que le Nigeria n'a pas du tout tiré en première période, donc sachant que déjà sur la, contre la Croatie, le Nigeria était assez inoffensif. L'Islande se dit, bah tiens, nul, ok, pourquoi pas, mais si on gagne, on est quasiment sûr de passer. Donc du coup, l'Islande prend un peu confiance, se découvre légèrement, pas forcément dans le jeu, mais sur ses phases arrêtées, les touches étant elles aussi une phase arrêtée, et au final se prend des contres, parce que en face, Moussa, Iheanacho, Moses, ça va très très vite, et si t'as un 3 contre 3 et que t'es couverture, qu'en gros tu parques avec 5 mètres d'avance face à Moses, faut être assez rapide parce que sinon t'arriveras avec 10 mètres de retard au bout de ta course 40 mètres plus loin, et c'est un peu ce qui s'est passé.
Ah bah parle-nous un peu du Nigérian du coup, Florent. Alors c'est l'équipe dirigée par Garnet Rohr. Alors on avait eu un match contre la Croatie où il y avait franchement pas grand chose à analyser côté Nigérian. Difficile d'en tirer des enseignements et de savoir où cette équipe pouvait être bonne ou moins bonne. Là sur la rencontre c'était un peu mieux, il y a eu des séquences en tout cas très fortes, pas forcément des principes, des idées très claires sur des longues périodes, mais il y a eu des momentum, et lors de ces momentum, le Nigeria a été très efficace, très direct, et puis après il y a eu des performances individuelles qui ont été très bonnes. Moussa, j'ai entendu parler aussi des Tebo, notamment, où là par contre tu as vu la qualité individuelle du Nigeria que n'a pas forcément l'Islande offensivement.
Alors, il y a d'abord eu un changement tactique, puisque le Nigeria est passé à 3 derrière, avec Omero qui est rentré dans l'équipe par rapport au premier match où c'était Kong et Balogun qui étaient associés. Donc il y a eu ce changement-là. Après, c'est vrai que sur la première mi-temps, ça se termine à 5 tirs à 0 pour l'Islande, et puis quelques ballons qui passent sur des coups de pied arrêtés et autres au niveau du deuxième poteau, Nigérian et des Islandais sont pas très loin de couper, peut-être d'ouvrir le score. Donc voilà, sans vraiment énormément dominer, parce que c'est pas l'approche de l'Islande. Ils ont eu 2-3 petites situations intéressantes en première période, sans réussir à marquer. Et en fait, en deuxième, ce qui fait la vraie différence, c'est que le premier but arrive très vite. Et ce qui est assez rigolo, entre guillemets, ou du moins un peu ironique, c'est que les Islandais prennent un but en contre. Le premier but de Moussa, et c'est sur une touche islandaise, donc ces fameuses touches qui leur permettent généralement de porter le danger sur les buts adverses. Et ben là ils se font prendre parce que à leur tombée de la touche dans la surface ils perdent le duel, et puis le deuxième duel qui est censé normalement leur permettre de récupérer la balle et d'éviter le contre, ce duel là est perdu. Je crois qu'il y a même un joueur islandais qui glisse, donc il n'est plus là sur la transition défensive. Et après le contre qui est très bien mené par, je crois que c'est Moses hein, qui est sur le côté droit, qui centre. Et Moussa qui fait un geste parfait, puisque sur sa prise de balle, en fait, il prend à contre-pied le défenseur qui anticipait déjà le fait que la balle parte au deuxième poteau sur le deuxième Nigérian qui avait suivi l'action. Et donc le geste de Moussa, l'enchaînement de contrôle-frappe est parfait pour prendre tout le monde à défaut. Et en fait, à partir du moment où tu as ouvert le score face à cette Islande, t'as vraiment fait 80% du chemin, parce qu'en face, certes, les Islandais se sont pris au jeu, ont commencé à jouer, ont commencé à attaquer, on a vu des séquences plutôt intéressantes pour progresser dans la moitié de terrain nigériane. Par contre, dans la surface, les Nigérians gardaient vraiment le contrôle des débats, mis à part sur le pénalty qu'il y a eu en fin de partie, alors qu'il y avait déjà 2-0. Et en fait, le fait que les Islandais soient amenés à beaucoup plus jouer et à beaucoup plus sortir pour tenter d'égaliser, je pense aussi que ça a accentué leur chute, ça a précipité plutôt leur chute, dans le sens où aux alentours de la 60-65e minute, on a senti que ça devenait beaucoup plus dur sur le plan physique pour eux, et les Nigérians, à l'inverse, ont vraiment haussé le ton et ont été beaucoup plus dangereux, beaucoup plus percutants sur les transitions, puisque généralement ça a surtout été sur les transitions ou quelques coups de pied arrêtés, et du coup le fait d'accélérer comme ça, ça leur a permis d'avoir notamment un temps très fort entre la 65e et la 75e minute, c'est-à-dire avec le but de Moussa qui arrive à la fin, où en l'espace d'une dizaine de minutes, je suis en train de me retrouver, ouais, il tire 7 fois au but en une dizaine de minutes, 9 fois même, pardon, 9 tirs en 10 minutes, et finalement ils inscrivent leur deuxième but de cette manière, et derrière, 2-0, contrôle, même s'il y a ce pénalty manqué par Sigurdsson. Et puis, le travail est fait de leur côté, ça les relance totalement dans la course à la qualif, du coup.
Ah bon, on va parler de ça d'ailleurs, Christophe, on va se projeter un peu sur les deux prochains matchs dans cette poule, les deux derniers d'ailleurs, Argentine-Nigeria, où là le vainqueur sera qualifié, et s'il y a match nul, il faudra sortir les calculs selon ce que fait l'Islande. Alors je te propose soit de te projeter sur Argentine-Nigeria et d'imaginer ce qui va se passer, soit de le faire sur Croatie-Islande, sachant que le perdant ce sera Flo qui devra faire l'autre match. Choisis.
c'est Croatie, Argentine-Nigeria. Argentine-Nigeria, ça fera un remake de ce qu'on a eu il y a 4 ans. Pour le coup, tu parlais d'Ahmed Moussa, on avait déjà lu Ahmed Moussa à l'époque. Alors, je suis vraiment curieux de voir ce match. Il y a quelques heures, j'avais plutôt un bon pressentiment pour l'Argentine. C'est-à-dire que, en fait, la victoire du Nigeria maintient totalement l'Argentine dans la course. Et au final, tu peux passer sans forcément briller, mais tu bats le Nigeria et puis tu peux te retrouver en huitième face à l'équipe de France. Et là, tu te dis, à partir des huitièmes, sur un match, tout est possible, parce que malgré tout, tu gardes du talent. Et parfois, t'as l'Italie qui gagne la Coupe du Monde après avoir fait 3 matchs nuls en phase de poule.
Portugal à l'Euro 2016.
Ou le Portugal qui termine 3e de son groupe, qui finit par gagner en changeant totalement son fusil d'épaule. Donc tu te dis pourquoi pas. Mais là, je vois la composition d'équipe qui est annoncée, j'ai pas du tout l'impression que Sampaoli change son fusil d'épaule. Donc pour moi, il y a deux manières de changer la direction prise. C'est soit tu restes dans l'idée qu'il faut tout relancer et tu mets des joueurs techniques à tous les postes, quitte à te prendre des vagues, mais ça a toujours été la philosophie de Sampaoli qui voulait jouer au foot, quitte à se faire punir parce que du coup il a trop de joueurs de foot et personne pour pouvoir casser entre guillemets le jeu adverse. Soit au contraire, tu laisses Mascherano, etc. sur le terrain, qui sont plutôt des travailleurs. Et puis à ce moment-là, tu te dis, bon, on n'a pas les moyens de nos ambitions. Et c'est pas grave, on va jouer plus défensif. Voilà, un peu l'aveu de faiblesse, entre guillemets, à remiser ses ambitions au placard, comme l'avait fait le Portugal, qui avait sorti Bernardo Silva, etc. après les poules de l'Euro 2016. Et là, j'ai l'impression que... Enfin, je vois pas de... Sans qu'en fait, j'imagine plus Sampaoli transiger sur les hommes que sur sa philosophie. Je vois pas Sampaoli se mettre à bétonner, à balancer loin devant. Et quand je vois que ça annonce Mascherano titulaire, etc., je me dis, en fait, il a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. Et au final, tu vois, on dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose en attendant un résultat différent. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça, quoi. Qu'il est tombé, aligner à nouveau une équipe avec pas forcément que des poètes du ballon, même s'il va remettre Fazio qui est un peu meilleur que certains défenseurs qui l'avaient mis sur le match précédent avec le ballon. Et j'ai peur qu'en fait ça soit un bis repetita du match face, enfin même des deux premiers matchs, mais surtout du match face à la Croatie. Donc je pense que ça va être assez équilibré au niveau du score. Et je suis vraiment pas sûr que l'Argentine, qui a une occasion en or, saisisse l'opportunité et soit capable de gagner ce match-là. Donc, pour le coup, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire pour le Nigeria. Si le Nigeria va chercher haut et se contente pas de faire comme face à l'Islande ou face à la Croatie, attendre que ça se passe et puis si on ouvre la porte, en profiter. Si le Nigeria essaye vraiment d'aller chercher lui-même la qualification et croit en ses chances et se montre ambitieux, je pense vraiment que le Nigeria, ça sera un peu un qui tout double, mais je pense que le Nigeria peut battre l'Argentine.
Alors dans le même temps, Florent, il y aura le match entre la Croatie et l'Islande. Croatie déjà qualifiée avec 6 points. Islande a 1 point qui est à l'heure actuelle devant l'Argentine à la différence de but. Et la différence de but risque d'être importante dans un cas particulier où deux équipes se retrouveraient à 4 points. Il faudra faire les calculs à ce moment-là. Mais alors la Croatie, ils peuvent un peu décider ce qui va se passer dans cette poule
totalement.
En faisant un peu ce qu'ils veulent contre l'Islande. Mais il va quand même falloir que l'Islande se mette à marquer des buts, au moins un but. Et disons que la Croatie a quand même des joueurs d'une qualité athlétique pour défendre dans sa surface. Et même si tu décides ou tu n'es pas prêt à gagner ou tu n'es pas forcément obligé de gagner, l'Islande, le potentiel offensif très limité de l'Islande risque de lui coûter un moment de la compétition. Et là, ça, c'est là qu'on va voir les limites vraiment de cette équipe.
Alors, les deux équipes s'étaient affrontées lors des éliminatoires et l'Islande avait gagné au moins un des deux matchs parce que j'avais revu leur dernière rencontre. Ils s'étaient imposés 1-0 à domicile, c'était en Islande. Donc je crois que c'était un des derniers matchs qu'ils avaient joué de qualif, puisqu'en effet, ils sortent promis de la poule de qualification. En fait, le truc, c'est que c'est très dur de parler de ce match et je pense que tout le monde sera devant Argentine-Nigeria parce que c'est vraiment la Croatie qui va décider de l'issue du groupe en fonction du résultat d'Argentine-Nigeria. Ils peuvent tout à fait qualifier l'Islande, en fait, s'ils décident de perdre. Et la difficulté est là, c'est que d'un côté, les Islandais ont... ont plus vraiment leur destin en main parce que ça va vraiment dépendre du vainqueur de l'autre match. Et de l'autre, en fait, ils vont être dépendants de la motivation, on va dire, des Croates. Je serais pas surpris, évidemment, sachant que pour eux, la première place est quasiment acquise. Il faudrait que le Nigeria s'impose.
Ouais. Avec 2-3 buts d'écart, et que la Croatie perde avec 2-3 buts d'écart. Enfin, ça paraît compliqué quand même.
Voilà, faudrait une grosse bascule pour le dernier match. Donc j'imagine que les Croates vont surtout en profiter pour faire un peu tourner, voire bien tourner l'équipe. On verra peut-être des joueurs comme Piatcha ou comme Badelj, on verra pas Kalinic par contre, vu qu'il est rentré chez lui, ou Kaletakar, le jeune là derrière, peut-être aussi. Mais voilà, il y a pas grand chose à dire de plus. Je pense que on pourra par contre se poser des questions si à la 80e minute, alors que de l'autre côté il y a match nul, les Islandais marquent deux buts. Là, on pourra se dire il s'est peut-être passé un truc. Mais c'est vrai qu'entre temps, il faudra vraiment se focaliser sur le premier match et puis voir comment ça se passe à la fin. Mais ce match à l'heure actuelle n'a pas un très grand intérêt, sachant que comme tu le disais, les Islandais face à des Croates qui seraient totalement impliqués. Je pense qu'ils auraient beaucoup de mal à arracher le résultat dont ils auraient besoin pour se qualifier.
Parfait, on arrive pile à l'heure de jeu. On va pouvoir passer au pari après ce bon débrief de cette journée qui était un peu meilleure que les précédentes tout de même. On s'est moins ennuyé. Il y a eu des choses pas mal. Le Brésil a réussi un peu à briller par séquence. Serbie-Suisse était assez ouvert et les deux équipes ont marqué. Et c'est rare dans cette Coupe du Monde que les deux équipes marquent finalement. Donc on peut passer au pari.
C'est la première fois qu'une équipe qui mène a perdu.
Ouais, voilà, que le premier retournement de situation complet depuis le début du tournoi. On espère qu'il y aura des choses aussi intéressantes demain, notamment avec tes paris, Christophe. Le premier, c'est sur Allemagne-Suède. Alors, tu es sur une bonne série en termes de paris, parce que tu as eu deux succès lors des derniers jours.
Non, attention, je te corrige. Je n'ai eu qu'un succès lors des derniers jours. J'ai eu deux succès au total, mais l'autre remonte, je pense, au premier jour.
Ah mince, d'accord. Ouais, donc
une série commençant à deux, il n'y a pas véritablement de série en cours.
Ah, t'as eu une fringale en fait entre la première et la neuvième étape.
Je risque de finir hors délai quand même, parce que là la fringale représente une certaine longueur.
La voiture balai te talonne. Donc tu as un truc sur Allemagne-Suède, alors ouais, c'est un match super important pour l'Allemagne qui a perdu contre le Mexique sa première rencontre. Tu restes tout de même optimiste pour cette équipe?
Oui, enfin optimiste, faut bien parier quelque chose, donc je vais faire un pari optimiste. Après, dans l'absolu, je suis sûr de rien dans cette Coupe du Monde, non seulement avant les matchs, mais même pendant les matchs. Ce que je disais à Florent hors antenne tout à l'heure, c'est que autant le football de club, je dis absolument pas ça pour justifier notre pari, parce que finalement, voilà, on se trompe, c'est pas la fin du monde, mais on a quand même plus souvent raison que tort, et je trouve que finalement, on n'est pas si mal que ça, surtout qu'on prend des cotes qui sont pas toujours basses, mais parce que t'évalues les clubs sur quand même 10 mois de compétition, et globalement, tu sais toujours à peu près ce qui va se passer, les rapports de force, tu vois à peu près comment ça peut s'imbriquer l'un dans l'autre. Là, pour les sélections, c'est tellement variable, il y a tellement peu de certitudes, tellement peu aussi d'historiques sur lesquels te baser, que d'ailleurs là on a même vu, même sur la fin de la première période, de deux matchs, et tu vois ensuite ce qui se passe sur la seconde, c'est totalement imprévisible et tu peux pas te douter de ce qui va se passer. Bref, tout ça pour dire que c'est difficile d'avoir des certitudes, même dans les paris qui passent, je t'avoue que parfois c'est un peu pas du pifomètre, mais pas loin. Là, donc mon pari, bref, après cette introduction un peu nulle, c'est l'Allemagne gagne et un ou deux buts au total dans le match. En gros, oui. C'est victoire 1-0 ou 2-0 de l'Allemagne, c'est à 3-10. Si je suis à peu près convaincu d'un truc, ou en tout cas j'ai envie d'être convaincu d'un truc, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup de buts, puisque la Suède, on la connaît, c'est quand même pas l'équipe la plus expansive du monde, et même mener 1-0, je suis pas sûr qu'elle se déséquilibre absolument pour marquer. Là je pars du principe que l'Allemagne marquera le premier but et qu'ensuite la Suède ne sera pas capable d'égaliser, et soit ça restera 1-0, soit la Suède essaiera de partir un petit peu à l'abordage, elle se mangera le deuxième et donc perdra 2-0. Dans tous les cas, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de buts. Après, que ça peut très bien tourner à 1-0 Suède, ce qui serait un peu embêtant pour l'Allemagne vu le résultat du premier match, ou 1 partout. Je ne suis pas persuadé que ça dépasse les deux buts, grand maximum 1-2-1, mais je parie sur le 1-2-0 pour l'Allemagne, que je sens quand même pas super sereine. Ça fait partie des équipes. Si l'Allemagne sautait au premier tour, ça me surprendrait pas trop.
Et tu mets quelle note à tes pressentiments depuis le début de la compétition, à peu près sur 10?
Moins l'infini.
D'accord.
Non,
non, parce que...
non mais je oui. Je sais, je comprends tout à fait ton tacle. Et
mais on est tous dans ce cas, mais c'est difficile de se séparer de ces trucs un peu mystiques qu'on ressent parfois.
Oui, après, tu vois, c'est pas un pari, mais le fait que Mitrovic gagne tous ses duels aériens et paraisse bien meilleur qu'il n'est, ça, c'est un truc qu'on avait tous annoncé et qui finalement se passe. Donc, on a quand même parfois.
Une branche à laquelle se raccrocher avant la chute.
Voilà, c'est ça. Pour ne pas tomber de trop d'étages d'un coup.
Deuxième pari. Et là, on va espérer que la Belgique ne tombe pas de trop d'étages d'un coup, puisque tu pars sur une cote totalement révolutionnaire dans l'histoire de Vue du Banc. Je crois que c'est peut-être la plus haute qu'on a jamais tentée. Explique-nous tout ça.
Ah bah c'est très simple, ça va être très simple à expliquer. Je m'en veux un petit peu, parce que, en fait, à la limite, je perds en crédibilité sur mes talents de voyance, mais ça dérange pas grand monde puisque je ne prétendais pas lire l'avenir. Mais encore aujourd'hui, donc là j'ai rentré un pari exceptionnel et j'ai vu des gens qui me disaient, enfin notamment un, putain, faut que je lise ce tweet qui m'a. Alors là, j'étais content mais j'étais un peu triste. De Nadal Ito justement qu'on a cité tout à l'heure.
Ah,
premier pari réussi grâce à toi, merci avec des points d'exclamation entre parenthèses, mais il ne me restait plus que 50 centimes.
Oui, bah à cause de toi ça se trouve.
Donc c'est-à-dire que s'il m'a suivi sur celui-là alors qu'il n'y a absolument aucune raison de me suivre vu tout ce que j'ai annoncé depuis le début, c'est qu'il m'a peut-être suivi avant et donc que j'ai ruiné cet homme. Donc du coup, ouais, je m'en veux un petit peu, je me sens une responsabilité. Et donc, je mise sur un triplé de Lukaku pour la Belgique, côté à 30, contre la Tunisie, qui se base sur le fait que je pense que la Belgique est capable de faire exploser cette équipe tunisienne, qui était quand même plus dans une idée de Catenaccio que de jeu offensif sur le premier match. Mais n'empêche que la Belgique a réussi à faire exploser le Costa Rica en prépa, le Panama sur le premier match sans forcément être brillante. Dès qu'elle ouvre le score, elle est capable d'en marquer un ou deux derrière assez rapidement. Et quitte à ce qu'il y ait un joueur qui marque, quand tu vois que Lukaku en met deux alors que finalement il fait pas un grand match contre le Panama et que sa première mi-temps il est totalement, il est impossible à servir. Seul un peu déconnecté du jeu en pointe. Donc je me dis, Florent avait envie de mettre un doublé de Lukaku, je vais piquer la cote. J'ai sorti les muscles, j'ai joué de l'épaule pour m'imposer. Et je me dis, plutôt qu'un doublé, allez, soyons fous, tentons le triplé. Une cote à 30 qui rentre, ça annule tout. Si ça passe, ça compense les 29 échecs précédents. Donc pourquoi pas?
Pourquoi pas ? C'est une justification qui rassurera les gens qui te suivent depuis le début. Le pourquoi pas très convaincant. On passe à Florent qui a aussi un pari sur le match entre la Belgique et les Tunisiens. Un pari que tu as déjà tenté plusieurs fois, Florent, depuis le début de la compétition et qui n'est jamais passé. Donc encore une information rassurante avant que tu nous présentes cette tentative de rémunération miraculeuse.
Ouais, bah, de toute façon, ça va un peu dans le même sens que Christophe. Donc ça veut dire que logiquement, les Tunisiens vont gagner le match demain. Puisque ce serait que... Les Belges remportent les demi-temps face à la Tunisie. Alors c'est pas passé en effet. On l'avait tenté. Je pense que je l'avais tenté face au Panama ou quelqu'un l'avait tenté. Et c'était pas passé parce que les Panaméens avaient résisté en première mi-temps. Là, il y a un facteur quand même supplémentaire qu'on avait vu lors du Angleterre-Tunisie, c'est que les Tunisiens sont catastrophiques sur coup de pied arrêté. Et je pense pas que ce soit quelque chose que tu puisses corriger aussi rapidement. Et du coup, je serais pas surpris que, même si les Belges sont pas flamboyants d'entrée, ont besoin de temps, je serais pas surpris qu'ils arrivent à se créer quand même pas mal d'occasions sur coup de pied arrêté dès la première mi-temps et peut-être ouvrir le score. Et d'ailleurs, sur coup de pied arrêté, un joueur comme Lukaku, pas forcément sur la première tête, mais qui traînerait dans la surface comme Kane avait bien traîné avec l'Angleterre, je pense qu'il pourrait peut-être mettre un ou deux buts de cette manière-là, à défaut peut-être de briller dans le jeu dès le départ en fait. Voilà.
Donc voilà, la Belgique remporte les demi-temps. C'est à 2,90, je crois.
C'est à 2,90, ouais. Et puis, si vous voulez pousser un peu plus à ce niveau-là, le fait que ce soit aussi la panique dans la surface tunisienne, il y a le pénalty belge à jouer, mais la cote n'est pas très élevée. La cote est à 4. Et du coup, si vous jouez le pénalty belge, vous avez le but d'Eden Hazard. Là, j'ai pas la cote, elle doit être à 1,80-1,90, je pense. Mais voilà, les deux vont de pair, vu que c'est Hazard qui est le préposé au pénalty côté belge jusqu'ici.
Autre pari qui concerne cette fois l'équipe frisson de la Coupe du Monde jusqu'ici, c'est le Mexique, venu à bout de l'Allemagne dans leur de première rencontre, qui affronte maintenant la Corée du Sud, qui n'est pas du tout l'équipe frisson de cette Coupe du Monde, plutôt l'équipe frigide. Et là, tu as un pari sur les buteurs et sur le buteur du Mexique.
Du Mexique, parce qu'il avait fait un bon match, c'est évidemment Chicharito, l'avant-centre du Mexique, qui avait fait un très bon match face à l'Allemagne, pardon, je vais y arriver, mais pas forcément dans le registre où on le connaît, c'est-à-dire joueur de surface et buteur, mais beaucoup plus dans le jeu, dans les déviations, etc. Il est impliqué d'ailleurs avec une excellente déviation sur le but de Lozano qui permet aux Mexicains de l'emporter en première mi-temps. Et là, face à une Corée qui va sans doute les attendre, vu ce qu'ils ont montré face à la Suède, en tout cas, je ne les vois pas proposer grand-chose de plus que ce qu'ils ont montré face à la Suède. Et en face, on va avoir un Mexique qui va devoir faire parler son jeu de position et ses attaques placées pour faire la différence. Et à ce niveau-là, forcément, surtout dans le football d'Osorio, qui est quand même un disciple et quelqu'un qui descend pas mal de Bielsa, l'avant-centre a une part prépondérante dans la finition. Il pèse quand même énormément, il est très souvent à la fin. Et du coup, je ne serais pas surpris que Chicharito ait des occasions de marquer et peut-être en mettre un si ce n'est pas deux. Et du coup, le but de Chicharito, à l'heure actuelle, la cote est plutôt bonne quand même, vu alors que c'est quand même le principal buteur de cette équipe, puisque la cote est à 2,50. Et je crois même que Lozano a une cote qui est inférieure à la sienne. Donc je trouve que c'est plutôt bien payé, sachant que généralement, les buteurs d'équipes qui sont censés avoir au moins la balle ou dominer un match, à chaque fois, les buteurs sont vers 1,70, 1,80, 1,90. Et là, 2,50, je trouve ça plutôt bien payé. Donc, je me dis que ça se tente. Voilà.
Ça se tente et j'imagine que certains le tenteront et qu'ils le regretteront très vite.
Voilà.
On va se retrouver demain. On va se dire que si un des paris de Christophe passe, il nous racontera sa rencontre avec les phoques. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Il nous expliquera comment il a pu la confondre avec des orques aussi. On n'est quand même pas sur la même dimension.
Voilà, c'est un terrible lapsus. Hein.
Mais comme la dernière fois, l'anecdote ibisesque avait été réclamée, elle a été racontée. Là, je pense que parler des animaux, parler du monde marin, parler un peu de notre fibre écologique peut intéresser les gens. Voilà. Merci à vous de m'avoir présenté tous ces paris. J'espère qu'il y en a un qui passeront. On se retrouve demain pour parler de tous ces matchs-là, de l'Allemagne, de la Belgique, du Mexique plutôt. Mm. Peut-être de la Corée du Sud s'ils arrivent à être bons. Voilà. Et puis on se dit à demain. Ciao.
Salut.
Cordialement.
Vous pensez avoir tout compris ? C'est le moment de parier sur PMU.fr, le numéro 1 du pari.